Bonjour. Contre la fusion Gaz de France Suez, pour la fusion EDF-GDF, tous ensemble à la manifestation du 3 octobre, c'est-à-dire demain, rendez-vous 11h30 place d'Enfer Rochereau en direction des Invalides, pour sauver ce qu'il reste de nos services publics, à bas les privatisations et le libéralisme.
Bonjour Daniel, continue. Nous mesurons au travers de la basse J'y suis toute la censure qui pèse sur nous. À ce propos, mes parents ont déménagé dans une petite ville du sud-ouest, à Langon. Demande a été faite à France Télécom le 28 août du changement de téléphone de Libourne à Langon. À ce jour, vendredi 29 septembre, ils n'ont toujours pas le téléphone. Je précise qu'ils ont 166 ans à eux deux et que j'habite l'Auvergne. Où est le bon temps du service public où l'on obtenait le téléphone en 48 heures? C'était il y a 20 ans. Vous voyez ce qui nous attend avec le gaz? On peut vivre sans téléphone en décembre, mais avec le gaz. Le ministre de l'économie nous dit « Vous allez voir la concurrence ». Ah, tu parles, Charles, la concurrence. Est-ce qu'elle joue pour les carburants? Est-ce qu'elle joue pour les fruits et légumes? Il va y avoir des comptes à rendre dans quelques temps. Dites-le à vos parlementaires. Car notre argent, ces élus n'ont pas été mandatés pour ça. Surtout qu'en arrivant au pouvoir avec moult critiques vis-à-vis des précédents, ils n'ont pas été gênés de s'augmenter de 70% ces ministres qui dilapident notre patrimoine. Continue, Daniel. Il faut informer les gens parce que la presse, il y a encore beaucoup à dire. Merci de nous laisser la parole.
Bon alors, Martine Guyot, j'habite la Vendée au château d'Olonne. Je suis là-bas si j'y suis depuis, oh là là, je ne compte plus. Et j'ai eu la très grande chance d'écouter par deux fois cette fameuse émission sur la privatisation des services publics. Et ça a fait comme un immense éclair, j'ai compris tout d'un coup où nous allions. Nous, moi je suis administratif, je travaille à l'éducation nationale. Nos tâches disparaissent subrepticement d'une manière intelligente dans des agences où des contractuels de droit privé font le travail que nous faisions. Et nous, on supprime nos postes. Mais c'est tellement bien fait. C'est tellement fait intelligemment que ça se fait. C'est une espèce d'hémorragie lente. Et les gens, bah, ils vont pas réagir au trop tard. Donc hier, il y avait une action, on n'a pas été nombreux. Mais si toi, tu n'avais pas fait cette superbe émission sur la privatisation des services publics, je crois que moi, j'aurais pas compris non plus. J'aimerais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, la réentendre ou pouvoir, j'ai pas pu l'enregistrer. Comment puis-je faire pour à nouveau faire entendre à d'autres gens? Ça m'a aidé, tu sais, hein, pour la fameuse, ou contre le référendum européen, etc., etc., etc. Bon, bah, je te remercie d'exister. J'arrive à te suivre de temps en temps, heureusement, les jours où je ne travaille pas. Et puis, je vais m'acheter une MP3 pour te podcaster. Et courage!
Oui, bonjour. Eric de Tours. Voilà, moi, j'appelais. C'était pour vous dire merci. Je viens d'écouter l'émission sur les Chibani. Voilà, donc ben moi j'habite à Tours et je suis travailleur social sur un quartier HLM. Alors je me suis senti concerné par l'émission sur les régies de quartier, puisque ben moi c'est le cas un peu chez moi, voilà, enfin dans mon quartier. Le principe c'est de faire la productivité des chiffres. Et puis ben, c'était juste pour dire à propos des Chibani, ben voilà, Monsieur T est mort. Mais bon, tout le monde s'en fout, Monsieur T c'était le Marocain du coin qui fume sa clope par sa fenêtre et que tout le monde connaît dans le quartier et tout le monde s'en fout. Il est mort vendredi dernier, enfin il est mort. Il est mort mercredi dernier et on a découvert son corps samedi. Sa femme, que personne connaissait sur le quartier, on demandait si c'était pas une légende à débarquer comme ça, et sa fille, qui a mon âge, c'est moi qui lui ai appris la maladie de son père. Voilà, Monsieur T est mort. Monsieur T, c'était un ouvrier à Lille, dans les mines. Il a arrêté de travailler alors que je n'étais même pas né, suite à sa maladie, la maladie du charbon. Et il est mort dans l'ignorance de tous et abandonné par tous. Voilà. Mais bon, mon père qui était ouvrier à Renault et qui est décédé, lui, en 2000, de la maladie qu'on appelle la maladie des forgerons, m'avait dit, voilà, tu verras le monde... La productivité, la recherche du profit, etc., etc., etc. La fin du monde ouvrier. Voilà. Enfin, bon, voilà. Merci pour vos émissions. C'est... Voilà. Enfin, une émission qui parle des petites gens dont on ne parle plus. Merci. Au revoir.
Prochain embarquement mercredi 4 octobre à 18h30 au Woodstock Boogie Bar, avenue Montjovi, avec Claude qui nous plongera dans les flots pas très clairs de la CMU et de l'AME. Prenez vos tubas.
Salut, salut Mermé, salut toute l'équipe. C'est Christine de Nîmes. J'appelle pour rappeler aux Nîmois et puis à ceux des alentours que notre repère aura lieu le jeudi 5 octobre, comme tous les premiers jeudis du mois, au Ad Hoc Café à partir de 19h30. Venez nombreux. Bien, bon courage à tous et à bientôt. Au revoir.
Oui, salut Daniel, salut tout le monde, c'est Julien, voilà, moi j'habite à Lausanne en Suisse. On a voté récemment durcissement des lois d'asile et des lois sur les étrangers qui fait que notre pays a actuellement la fierté d'avoir les lois parmi les plus restrictives d'Europe. Je voulais simplement dire que tout le monde n'a pas voté oui, tout le monde n'a pas soutenu ces lois et puis... que c'est difficile de se battre dans ce pays parce que les intérêts sont très puissants. Il y a beaucoup d'argent en jeu dans ce genre de campagne. Et puis, mais on baisse pas les bras. Voilà, simplement pour dire ça. Au revoir.
Bonjour, ici Nicolas de Montréal. Un petit mot pour vous inviter à venir nombreux à la première du repère de la base Si J'y suis à Montréal, qui aura lieu mercredi prochain, 4 octobre, et tous les premiers mercredis du mois par la suite, au bar Les Utopistes, situé au 2316 rue Mont-Royal, intersection Solom. J'espère qu'on va être nombreux, Français et Québécois, à discuter. Donc, à plus, à mercredi. Ciao.
Ici Mille Babor à Marseille. Mille Babor, Mille Gauche, médiathèque associative, locale, agenda militant hebdomadaire et un site, organise sa fête annuelle, la fête des luttes, sur le thème de la désobéissance civile. Le dimanche 8 octobre de midi à 21h, buffet à ce village associatif, forum, concert, et au 11 boulevard Briançon, métro Bougainville. Voilà, pour information, venez nombreux, le site de Mille Babor, www.millebabor en un seul mot, .org. À bientôt, continuez.
Oui, j'appelle là, j'entends beaucoup toujours parler Sarkozy de d'insécurité, de ceci, de cela, que ça va pas, les l'immigration, etc. Mais le reste de son programme, c'est un peu vague. On sait pas, il parle que de l'insécurité, le restant, on n'en entend pas parler du tout, hein. Ou très très peu, hein. Et c'est très inquiétant, à mon avis.
Daniel, bonjour. Gérard de Lille. Ce petit message pour annoncer notre réunion des amis de la Bastille. J'y suis ce soir, lundi 2 octobre à 20h. Mais attention, il y a un changement d'adresse pour le repère. Ce sera maintenant au café L'Imaginaire, 5 place Louise de Bétigny, dans le Vieux-Lille. Café L'Imaginaire, 5 place Louise de Bétigny, dans le Vieux-Lille, juste à côté de l'hôtel de la Treille. Voilà, venez nombreux, à bientôt Daniel.
Bonjour Daniel, vendredi 29 septembre, la campagne Taquiner France Inter dans ses dérives a démarré par l'inauguration du Mancomètre devant les bureaux de France Inter Marseille. Ce fut un véritable succès malgré une très vive concurrence. En effet, Ségolène Royal donnait au même moment et toujours à Marseille un apéro, conférence de presse. Et bien malgré cette concurrence déloyale, quelques journalistes étaient présents à l'inauguration du Mancomètre. Ceux-ci voulaient absolument mesurer le manque d'indépendance des journalistes précarisés. Fort de ce succès, nous inaugurons à la fin du mois un appareil tout aussi sophistiqué, mais tellement redoutable, puisqu'il s'agit de l'indignomètre, qui décerne le prix GEM pour journalistes, animateur indigne du mois. Et cette fois-ci, l'événement se déroulera dans plusieurs villes de France. C'était Dany, un AMG d'Aix-en-Provence.
Taquiner Inter. Très bien. Mais enfin, il faut quand même bien préciser que nous n'avons aucun rapport avec ces gens-là. Aucune relation avec des gens comme ceux-là. C'est assez curieux d'entendre ça quand même, taquiner Inter, là où nous nous trouvons, à Kandahar. Vous vous souvenez, mais si, il y a 5 ans, lorsque les talibans tombèrent, lorsque les armées de libération entrèrent dans Kaboul et que les talibans finirent, c'était la chute des talibans. Quelques semaines plus tard, c'était la chute de Kandahar, qui est le fief des abhorrés talibans. Sauf que c'était pas la chute des talibans, c'était le retrait stratégique des talibans dont ils sont évaporés dans le paysage, dans les montagnes, ils sont retournés à un certain anonymat, ou bien ils se sont repliés au Pakistan. Et les revoilà, les talibans. Depuis quelques mois, ils font de plus en plus parler d'eux, et ils le font de façon assez explosive. Les attentats se multiplient, les attaques se multiplient. C'est une véritable insurrection. Les talibans reprennent la main sur le sud de l'Afghanistan. Ils consolident leur emprise sur le sud de l'Afghanistan et ils mènent la vie très dure aux troupes de la coalition, que ce soit les troupes sous autorité américaine ou sous autorité de l'OTAN. C'est des questions très très importantes parce que on peut se demander d'abord qui sont exactement ces nouveaux talibans, de néo-talibans. Les Américains les appellent ACM pour anti-coalition militante, c'est-à-dire pas seulement les talibans, mais une population plus large qui de plus en plus rejette cette présence étrangère qui est vécue comme une occupation. Est-ce que ces ACM sont soutenus par la population? Il semblerait bien que oui, très largement, encore que ce soit difficile évidemment de prendre la mesure de ce soutien. Il y a aussi une donnée nouvelle depuis 5 ans, c'est la drogue. On en a parlé déjà, vous le savez, l'Afghanistan est devenu le premier producteur d'opium au monde. L'opium prend est à la première place dans l'économie de l'Afghanistan. Et bien évidemment que l'opium permet cette insurrection et cette mobilisation des talibans dans le sud et l'est de l'Afghanistan. Il y a aussi un phénomène d'irakisation du conflit, c'est-à-dire que les techniques de rébellion, d'insurrection se ressemblent beaucoup et de plus en plus en Afghanistan. Et il y a aussi une dimension importante, à la différence de l'Irak, c'est qu'ici la France est présente. D'abord, il y a un lien ancien avec l'Afghanistan, et puis il y a des hommes, il y a des troupes françaises qui sont présentes ici. Il y a un engagement de la France. Et tout ça pourrait bien, assez rapidement, ressembler à un vaste bourbier suite à des tas de facteurs très compliqués que nous essayons de comprendre, mais il semble bien que la reconstruction du pays, les promesses faites, les fonds promis et pas toujours envoyés, mais aussi des phénomènes de corruption, des phénomènes très compliqués à réduire en quelques mots, à expliquer en quelques mots, soit à l'œuvre. C'est ce que nous essayons de comprendre et c'est ce que nous essayons de vous faire comprendre dans une suite de reportages que nous vous présenterons à notre retour. Pendant ce temps-là, sur le front, sur un autre front en tout cas, toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, est en train d'être au boulot un peu partout. Et il y a Antoine Chao qu'on va retrouver qui est à Bamako pour un forum anniversaire, vous allez le découvrir. Et puis aujourd'hui, on retrouve, comme chaque mois, en début de mois, chaque premier lundi de chaque mois, l'équipe du monde diplomatique. Et ce lundi, c'est Renaud Lambert qui est allé voir l'équipe du monde diplo. Donc voilà, le diplo aujourd'hui, et puis des nouvelles donc d'Antoine Chao en direct de Bamako.
Salut, c'est Antoine à Bamako, au Mali. C'est les journées commémoratives de Sewta et Melilla qui démarrent demain ici à Bamako, donc à l'initiative de Aminata Traoré et de son forum pour un autre Mali. les victimes de Ceuta et Melilla, donc les migrants qui ont échoué sur les barbelés toujours plus lourds et toujours plus meurtriers de la forteresse européenne néolibérale, donc qui refuse de partager les frais de croissance et ses richesses avec ses frères africains. Donc Ceuta et Melilla, c'était il y a un an aujourd'hui, c'est les îles Canaries avec Los Cayucos, ces petits bateaux de fortune dans lesquels s'échouent et se noient aussi beaucoup de candidats à l'immigration. Donc on va retrouver pendant cette semaine tous les rescapés et les familles aussi des victimes. Là justement, je suis en route en camion vers le village de Dipieni pour rencontrer une famille qui a perdu son fils, qui a perdu un enfant. Cet enfant, lui, avait choisi une autre voie, s'était monté dans le train d'atterrissage d'un avion pour l'Europe, pour la forteresse européenne, et qui est mort congelé, donc qui est tombé comme un glaçon sur les pistes de nos aéroports modernes européens. Donc on se retrouve dans une semaine, et à la question pourquoi partent-ils, que vont essayer de répondre ces journées commémoratives. En attendant, petite photographie sonore de la journée de préparation avec Aminata Traoré et les copains migrants de Ceuta et Melilla. Ciao.
Vous savez, il y a exactement un an, la plupart d'entre vous étiez dans le désert. On a vraiment vécu douloureusement ce que vous avez vécu. Vos camarades sont morts, vous les avez vus mourir de soif, mourir dans l'eau. Mais encore d'autres qui veulent partir. Nicolas Sarkozy, à Madrid, a dit aux autres pays, à l'Espagne, à l'Italie, que ce sont les Espagnols et les Italiens qui compliquent son travail en régularisant ceux qui sont passés. On ne peut pas aller en Europe, mais maintenant ils veulent que chaque pays africain garde bien ses enfants.
Bouleversant l'ordre du jour, Nicolas Sarkozy propose alors d'interdire à l'avenir toute régularisation massive de sans-papiers. Il réclame aussi plus d'argent pour Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières.
Et faisons l'effort au moins de leur dire ce dont nous ne voulons plus. L'argent sale de Nicolas Sarkozy, qui consiste à donner 40 milliards à tel ou tel État pour faire de nos pays une prison, on n'en veut pas. Donc pendant tout ce forum-là, nous allons préparer une déclaration. C'est dans la déclaration maintenant que nous allons dire ce qui nous paraît inacceptable. Tout le monde saura pour la première fois que vous n'êtes pas d'accord avec les déclarations de Rabat et que nous allons nous battre contre les solutions de l'Union européenne. D'accord ?
Alors, on retrouve l'équipe du Monde Diplomatique autour du sommaire du numéro d'octobre 2006, en compagnie d'Ignacio Ramonet, Bernard Cassen, Maurice Lemoine, et puis aussi Noël Burgi, Laurent Bonnefoy, qui collaborent à ce numéro et qui nous parleront des articles qu'ils ont publiés dans ce numéro. Alors, Daniel Mermet n'est pas avec nous aujourd'hui parce que, comme vous le savez, il est parti en reportage avec Guy Vanctil en Afghanistan, pour voir, 5 ans après, ce qu'il était advenu de ce pays après le lancement de la campagne de la guerre contre le terrorisme. Ce qui n'est pas, Ignacio Ramonet, sans rapport avec ce numéro, en tout cas avec deux des articles dont nous allons parler aujourd'hui, à commencer par votre éditorial, Tension en Corée, où vous évoquez la Corée du Nord, dont on se souvient qu'elle faisait partie des pays de l'Axe du Mal, dont George Bush avait donné la liste en janvier 2002. C'est bien ça ?
Absolument. La Corée du Nord. Moi, je reviens de Corée, du Sud, bien entendu. Mais effectivement, en général, on s'intéresse ici, dans notre partie du monde, on s'intéresse beaucoup plus aux problèmes de l'Europe, bien sûr, du Proche-Orient, voire même de l'Afrique. Lorsqu'on est, une personne intéressée par la politique internationale, mais on s'intéresse moins à l'Asie. Et au monde diplomatique, depuis maintenant quelques temps, on a décidé de s'intéresser davantage à l'Asie, pour beaucoup de raisons, bien sûr. Et en Corée, effectivement, les tensions se sont aggravées dernièrement, puisque, comme on s'en souvient, le 5 juillet dernier, la Corée du Nord a procédé, parce que la péninsule coréenne est divisée donc en deux États, n'est-ce pas, la Corée du Nord, qui est un État encore communiste et un État assez fermé, peut-être l'État le plus fermé du monde, et la Corée du Sud, qui est un pays relativement petit, c'est-à-dire en surface, c'est pas plus grand, disons, que la Belgique, pour qu'on ait une idée, c'est-à-dire c'est 100 000 km² à peu près, et c'est un pays d'environ 40 millions d'habitants, mais c'est la 11e puissance économique du monde, et ceci en très peu de temps, hein, puisqu'il faut se souvenir que la Corée a été ravagée par une guerre de grande envergure au début des années 50, et que le pays a été détruit. Donc ce petit pays est devenu une puissance économique très importante et bon, les auditeurs qui nous écoutent sont familiarisés avec des choses, enfin des marques comme Samsung ou LG par exemple, ou Hyundai, etc. sont des marques coréennes, sont eux qui ont d'ailleurs inventé les écrans plats. Et cette prolifération d'écrans plats aujourd'hui, c'est essentiellement coréen. Eh bien, donc le 5 juillet dernier, je disais, la Corée du Nord a procédé à des essais de missiles de longue portée, et parmi ces essais, ils en ont envoyé 7, et dont un qui est un missile de très longue portée, ce qu'on appelle un missile balistique, qui est en mesure théoriquement d'atteindre les États-Unis. Alors en fait, ces missiles se sont tous abîmés en mer du Japon au bout de quelques secondes de vol, et donc il n'y a pas eu de victimes. C'était des essais qui ne sont pas illégaux, disons, hein, mais qui avaient été déconseillés par la communauté internationale, étant donné que la Corée du Nord a déclaré qu'elle possède l'arme nucléaire et qu'il y a une vraie préoccupation internationale autour de la possibilité que la Corée du Nord puisse, bien entendu, doter ses missiles d'engins nucléaires, en particulier, bien sûr, une grande préoccupation de la part des États-Unis et du Japon, et aussi de la Corée du Sud. Et donc, ces essais ont fait que, alors qu'il y avait des négociations dans la région qui avaient abouti en septembre de l'année précédente, c'est-à-dire de 2005, à un accord conduit dans le cadre de 6 États, de 6 nations qui sont les nations de la région, hein, c'est-à-dire il y a la Chine, il y a la Russie, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Tous ces pays sont des pays de la région. Et même les États-Unis, parce que les États-Unis sont en Alaska, même s'ils sont présents dans des bases militaires, hein, en Corée et au Japon, mais l'Alaska est malgré tout, finalement, on peut considérer que ça fait partie de cette région-là. Et donc, il y avait eu un accord, et selon cet accord, la Corée du Nord acceptait en quelque sorte de geler son programme nucléaire à condition de recevoir une aide en matière d'énergie et une aide aussi en matière alimentaire. Mais la Corée du Nord a considéré que cet accord n'a pas été respecté par les autres parties, hein, en particulier par les États-Unis, parce que quelques jours après cet accord, le Trésor américain sanctionnait la Corée du Nord au prétexte que, dans une banque de Macao, donc en Chine, il y avait le soupçon que la Corée du Nord essayait de blanchir de l'argent en utilisant cette banque. Et donc, les États-Unis ont sanctionné la Corée du Nord. Donc, la Corée du Nord a considéré que l'accord de septembre, du 19 septembre, était nul et non avenu, et a donc poursuivi, disons, à la fois son projet nucléaire et son projet de lancement de missiles. Et donc, moi, je viens de passer une semaine en Corée du Sud, où j'ai vu un certain nombre de personnalités. Il y a une grande préoccupation dans la région autour de ça, parce que, quand j'y étais, il était question que le Japon impose des sanctions, ce que le Japon a fait d'ailleurs. Et la Corée du Sud, il faut le savoir que la Corée du Sud, le gouvernement sud-coréen aujourd'hui n'est pas tout à fait sur la même ligne que les États-Unis et le Japon notamment, ligne dure de sanctions à l'égard de la Corée du Nord que ses deux alliés. Pourtant,
c'est
évidemment,
ça. Ce que vous expliquez dans l'édito, c'est que la Corée du Sud œuvre à une réconciliation ou la préparation d'une éventuelle unification des pays, mais à un niveau beaucoup plus pacifique que la politique de changement de régime qu'essaye de promouvoir Washington.
Voilà, c'est-à-dire que les Sud-Coréens, qui sont des alliés des États-Unis, soupçonnent l'Amérique en réalité de ne pas vouloir une sorte de situation pacifique dans la région, mais chercher à changer le régime de la Corée du Nord. Alors les Sud-Coréens disent ça, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est d'éviter qu'il y ait des tensions, et d'éviter qu'il y ait des guerres, surtout que s'il y avait une guerre, elle serait nucléaire. Et donc j'ai rencontré notamment Kim Dae-jung. Kim Dae-jung, c'est l'ancien président de la Corée du Sud et prix Nobel de la paix en 2002 parce qu'il avait fait un voyage, en particulier à Pyongyang, où il avait pour la première fois établi donc des relations avec Kim Jong-il, Kim Jong-il étant le président de la Corée du Nord. Et Kim Dae-jung me disait une phrase que j'ai rapportée dans le journal. Il disait, écoutez, dans le monde, il y a eu deux unifications ou deux réunifications au cours de ces récentes années, les 30 dernières années. Il y a eu la réunification du Vietnam qui s'est faite par la force et qui a fait 1,5 million ou 2 millions de victimes. Donc, nous ne voulons pas ce type de réunification avec la Corée du Nord. Il y a eu la réunification allemande qui s'est faite à un coût délirant en termes de dépenses financières et qui a d'ailleurs en quelque sorte provoqué une sorte de retard général pour toute l'Europe qui a dû financer cette unification trop rapide mais trop coûteuse. Nous voulons une unification, si elle doit avoir lieu, beaucoup plus lente, beaucoup plus progressive et beaucoup plus pacifique. Et surtout, il faut que les États-Unis, voire le Japon, hein, j'arrive aussi du Japon, où il y a un nouveau gouvernement, disons, beaucoup plus à droite, qui crée évidemment des préoccupations dans la région, en particulier en Chine et en Corée du Sud. Et donc, Kim Dae-jung ajoutait, il faut que les États-Unis et le Japon laissent la Corée du Sud, dont c'est le problème principal de cette question, conduire au rythme qu'elle le souhaite ce projet d'éventuelle unification. Et c'est plutôt à nos alliés de nous écouter en la matière que à nous d'exécuter ce que nos alliés qui sont plus éloignés et qui ont d'autres problèmes doivent nous dire. Donc voilà disons le point sur une région qui est parfois oubliée ici en Europe, mais qui, bien entendu, est capitale pour la sécurité du monde.
Et vous citez aussi une phrase du président Kim Dae-jung, il évoque une spirale fort dangereuse. Donc, pour l'instant, avec ces tirs, on est plutôt dans une logique d'aggravation de la situation.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une spirale. Pourquoi ? Parce que ces tirs ont provoqué les sanctions du Japon. D'autre part, il y a un nouveau gouvernement au Japon qui envisage de modifier la constitution pour permettre au Japon de se doter de véritables forces armées, alors qu'ils n'ont que des forces d'autodéfense, ce qui, bien entendu, préoccupe les Coréens du Sud aussi, et bien entendu les Coréens du Nord, et préoccupe surtout la Chine, qui, bien entendu, croit que si le Japon se réarme, eh bien, le Japon va pouvoir intervenir dans la grande dispute entre la Chine et Taïwan. Et donc, ça, c'est une question majeure. Donc, il y a effectivement une spirale dangereuse et il faut apaiser les tensions dans la région.
No me lo creo, porque es verdad. Nunca más me dices permanente, nunca más. Ni nunca menos, y no queda más que poco, y en total es así, pues nada. Ven aquí, estoy alegre, vení allá, eres mi sopa. Que sea eso así, no puede ser. Por teléfono es más fácil que me equivoque. Seguro que es por eso. Me llevé el móvil. Ven aquí, estoy alegre, vení allá.
Alors, on traverse l'Atlantique. On traverse l'Atlantique avec Maurice Lemoine pour nous rendre en Amérique latine, qui connaît une année électorale importante, avec des élections qui ont déjà eu lieu au Costa Rica, en Haïti, en République dominicaine, je crois, en Colombie, au Mexique.
En, en Équateur bientôt, au Brésil hier, hein, puisque Lula va devoir passer un deuxième examen, c'est-à-dire un deuxième tour, alors que beaucoup considéraient qu'il serait élu au premier tour.
Et vous, Maurice Lemoine, vous avez choisi de vous intéresser au Pérou, où vous vous êtes rendu entre les deux tours de l'élection présidentielle.
Pour le deuxième tour en juin dernier. Alors vous allez me dire pourquoi c'est un peu en retard, pourquoi parler en octobre d'élections qui se sont passées au mois de juin. Bon, le résultat est connu, c'est le social-démocrate Alan García qui a gagné cette élection. Mais c'est surtout parce que la campagne électorale qui l'a précédée a été tout à fait symbolique, a été le reflet des grandes lignes de fracture et des contradictions qui traversent l'Amérique latine. Elle a été le reflet de deux trois idées qu'on est en train d'imposer, aussi bien en Amérique latine d'ailleurs qu'ici en Europe, qui tournent en gros autour de ça. La première idée, c'est que ce qui menace l'Amérique latine, sa démocratie, son économie, c'est pas la pauvreté, c'est pas l'injustice sociale, c'est pas les hauts degrés d'inégalité, c'est le populisme. La deuxième idée, en gros, c'est que tout chef d'État ou de gouvernement, ou tout candidat à une élection, qui n'est pas en accord total avec Washington, le consensus de Washington, les règles édictées par Washington, est un populiste. Et la troisième idée, ça serait que le populisme de gauche est quasiment l'antichambre du terrorisme. Et on a retrouvé ces logiques dans cette élection au Pérou. On est au Pérou, on est dans un pays d'Amérique latine, un pays andin, un pays riche, peuplé de pauvres, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, hein, puisque le Pérou produit de l'or, de l'argent, du cuivre, du zinc, à un moment où, en particulier, la demande de la Chine fait exploser les prix des matières premières. Donc, au Pérou, en 2005, par exemple, les exportations ont doublé par rapport à 2001. En même temps, le taux de pauvreté n'a été réduit que de 53% à 51%, c'est-à-dire que tout le sud du Pérou, les hauts plateaux andins, et en particulier les régions habitées par les populations indiennes, les populations indigènes, demeure dans une misère extrême. Dans ce contexte-là, on pouvait se dire que la campagne électorale tournerait autour, et surtout venant par exemple d'un social-démocrate comme Alan García, tournerait autour de comment allons-nous réduire la pauvreté, comment allons-nous faire, quelle politique, etc. etc. Non, non, le meeting de clôture d'Alan García s'est intitulé « Avec Chavez ou avec le Pérou ?» On retombe sur notre fameuse histoire de populisme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait en face d'Alan García un candidat qui s'appelle Ollanta Humala, dont je ne dirais pas ici qu'il aurait été un bon président, on n'en sait rien, on ne sait jamais à l'avance. Hein. Ollanta Humala est un ancien militaire, comme Chavez. Il s'inscrit dans la logique de Chavez et d'Evo Morales en Bolivie. Et surtout, il a commis un crime, c'est que s'étant rendu à Caracas, il a demandé à être présenté à Chavez, ce qui a été fait, et il a été accueilli chaleureusement. Moyennant quoi, le gouvernement péruvien s'est insurgé, a rappelé son ambassadeur, on a eu un espèce de psychodrame à la latino-américaine avec des échanges d'insultes, Chavez en plus est haut en couleur, donc... Mais le fond du problème, c'est que la situation du Pérou n'a pas été abordée. Ce qui a été abordé, c'est l'ingérence de Chavez. Sur le thème de l'ingérence, le Pérou s'est plaint devant l'Organisation des États américains, soutenue par Washington, en disant « il y a ingérence de Chavez dans la campagne péruvienne ». Alors comme c'est un thème qui est quand même souvent repris dès qu'il s'agit, j'ai employé l'expression consacrée, du bouillant président vénézuélien, je vais quand même citer au passage la réponse qu'a fait le secrétaire général de l'OEA, donc le chilien Miguel Insulza. Il a dit « il faut distinguer entre ce que nous pourrions appeler une intervention purement verbale, c'est-à-dire déclarer « j'aime celui-ci, je sens pas cet autre, celui-là me déplaît », et les interventions qui signifient des actions concrètes pour altérer les résultats d'une élection ». C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a évidemment dans ces cas-là pas d'ingérence du Venezuela. On a même lu chez nous je ne dirais pas où, par charité chrétienne, lorsque Evo Morales a nationalisé les hydrocarbures en Bolivie, on a vu derrière la main de Chavez et Castro. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Chavez, Castro ont manipulé ce petit Indien, dont on a salué la victoire, parce que c'était la première victoire d'un Indien, mais d'un seul coup, ça devient un Indiecito, un petit Indien qui se laisse manipuler par Chavez. Il faut quand même rappeler que si Evo Morales a nationalisé les hydrocarbures en Bolivie, c'est parce qu'il y a eu en Bolivie, en 2004, un référendum, au cours duquel 70% de la population bolivienne, et non pas ni Chavez ni Castro, ont voté pour la nationalisation des hydrocarbures. Bon, les rapports de force en Amérique latine, c'est ça, Evo Morales, il n'a pas besoin de Chavez et de Castro, même s'il a évidemment d'excellentes relations avec eux.
Alors, on va revenir quand même un tout petit peu sur le Pérou, si vous voulez bien, Maurice Lemoine, simplement pour donner envie aux auditeurs de lire le papier, puisque effectivement, maintenant, on sait que Alan Garcia a gagné des élections, mais on sait aussi que Humala a remporté un fort succès en dehors de poches de richesses que sont Lima et le nord du pays, si je ne me trompe pas.
Oui, ça a été une élection très significative, en l'occurrence. Hein. Alan Garcia, qui d'ailleurs, il faut le préciser, a été un jeune président en 85 et 90, parfaitement estimable. Hein. Il était social-démocrate, mais alors beaucoup plus radical qu'il en est aujourd'hui. Il a pris des mesures courageuses à l'époque. Hein. Il a, par exemple, dans le remboursement de la dette extérieure, il avait décidé que le pays ne rembourserait pas plus de 10% du montant de ses exportations, etc. Bon, son mandat à l'époque s'est terminé en désastre. Il y a eu la violence du sentier lumineux. Et il a mis de l'eau dans son pisco, hein, depuis. Mais il a été élu, évidemment, face à la menace de Ollanta Humala, le candidat dit populiste, avec les voix de la droite. Et il a été élu par Lima essentiellement, qui profite effectivement d'ailleurs de ce boom sur les matières premières et de ce boom économique qui est réel au Pérou. Ollanta Humala a gagné dans les régions indigènes avec des taux parfois absolument phénoménaux. Hein. À Ayacucho, il gagne avec 80% des voix, à Cusco avec 77% des voix. Il y a des départements où il gagne avec 85% des voix, c'est-à-dire que dans les poches de pauvreté, il y a là une opposition. On n'est pas en Bolivie. On n'est pas en Bolivie. Ollanta Humala est tout jeune en politique, puisqu'en fait, il a un an d'existence politique. Hein. Il est desservi aussi par le fait qu'il a une famille qui n'est pas toujours très fréquentable, il faut le dire. C'est vrai qu'on se méfie de lui, avec aussi parfois de bonnes raisons. Hein. Son père a inventé l'ethnocacérisme, qui est un parti qui, sur une base ethnique assez douteuse, veut reconstituer l'Empire Inca. Il a une mère qui veut faire fusiller les homosexuels. Il a un frère qui s'est soulevé il n'y a pas très longtemps, qui est en prison et qui n'est pas très soucieux de respecter les règles de la démocratie. Et en même temps, Humala, il dit, écoutez, moi j'ai 44 ans ou 45 ans, plus quel âge il a, je ne suis pas dépendant de mon frère, de ma mère, de mes sœurs, il faut qu'ils disent ce qu'ils veulent, j'y peux rien. Hein. Moi, j'ai ma position à moi. Cela étant, c'est vrai qu'on n'est pas en Bolivie au Pérou. La terrible guerre qui a déchiré le Pérou à l'époque du Sentier Lumineux, la terreur du Sentier Lumineux, mais aussi la terreur des mesures contre-insurrectionnelles.
Il faut rappeler que le Sentier Lumineux, c'est une guérilla maoïste. Voilà.
Hein, maoïste, je veux dire, a détruit les partis de gauche. Hein, c'est-à-dire que les militants de gauche, dans ce contexte d'insurrection contre insurrection, se sont réfugiés dans les ONG. Et puis bon, donc, il n'y a pas de parti constitué. Donc le défi pour Ollanta Humala, s'il poursuit son action politique, dans le courant Chavez-Morales, c'est vrai, ça va être de constituer une vraie force politique. Hein, pour le moment, il a eu un vote protestataire. Bon, c'est une chose. Ça, évidemment, ça demande derrière la formation, alors lui, il appelle ça un front démocratique populaire nationaliste, pour voir si il va être en mesure de poursuivre cette percée spectaculaire, étant entendu que évidemment l'establishment péruvien a pris conscience du danger. Et qu'on est en train de sortir à Ollanta Humala, et là je vais vous dire très clairement que je n'ai pas enquêté là-dessus, hein, donc je n'ai pas la réponse, mais il était militaire. Il a participé à la lutte contre le Sentier Lumineux, et très curieusement, alors que son nom n'apparaît nulle part dans la commission, le rapport de la commission de la vérité, hein, qui a indiqué qu'il y avait eu 70 000 morts, son nom n'apparaît pas, on est en train de lui sortir des affaires de violation des droits de l'homme, sur la base de témoignages qui sont extrêmement contestés, puisque y compris des gens ont dit « on m'a manipulé, on m'a fait dire que Ollanta Humala avait pratiqué la disparition forcée », donc cas extrêmement douteux, mais on est en train de lui sortir cela en ce moment, évidemment, pour bloquer son action politique, et je le dis encore parce qu'il faut être prudent, sans préjuger des résultats de l'enquête.
Je n'ai plus le moral nécessaire de signer le chèque qui doit nous unir. Je n'ai plus le moral nécessaire de tendre ma joue pour recevoir la gifle de la justice. Je n'ai plus le moral nécessaire de penser gauche et d'agir droite. Je croise en trois espèces chez l'homme la foi, la faim et la trahison. Je préfère agir avant de réfléchir, car le résultat n'est toujours pas le même. Pour une fois, j'enlèverai ma cravate pour m'introduire facilement dans la bourgeoisie ouvrière, afin d'avoir la conscience tranquille. Dites-moi, pourquoi achetez-vous des disques de blues? Est-ce par pitié ou parce que c'est bon? Le professeur Barnard est-il raciste? Ceux qui ont trouvé la bonne réponse ont gagné un cœur bien frais. Le moral nécessaire de rester là, car ce que je craignais et espérais est fait.
Alors, nous continuons notre tour d'horizon du sommaire du numéro d'octobre du Monde diplomatique en compagnie de Noëlle Burgy. Noëlle Burgy, vous êtes chercheuse au CNRS. Vous venez de publier La machine à exclure, les faux-semblants du retour à l'emploi. Et dans le Monde diplomatique du mois d'octobre, donc, vous dressez un tableau assez noir de l'évolution du RMI depuis son instauration en 88 jusqu'à nos jours, où finalement il n'a plus grand-chose à voir avec le projet qui l'animait au départ.
Oui, ce qui est très important de rappeler peut-être, c'est que le RMI a été instauré en 88. C'était une mesure provisoire, qui avait été conçue par ses initiateurs comme une mesure provisoire face à une situation de crise. On s'était aperçu depuis quelques années déjà qu'il y avait une nouvelle pauvreté laborieuse, une nouvelle pauvreté de gens qui travaillent. Et on ne comprenait pas très bien à l'époque quel était ce phénomène-là. Ce qui s'est passé, c'est que donc on a instauré le revenu minimum comme un filet de sécurité, mais sachant très bien que ça ne suffirait pas à résoudre le problème de l'emploi et à transformer le marché du travail de façon significative, en particulier pour les personnes que l'on disait déjà et que l'on dit aujourd'hui en difficulté. Au lieu d'être une mesure provisoire, c'est devenu une mesure permanente.
Pérennisée. Même, voilà. Même si la logique a énormément changé. Vous rappelez dans l'article que le RMI était considéré comme un droit constitutionnel qui visait à indemniser d'une certaine façon les citoyens que l'État, que le système ne parvenait pas à faire entrer dans le monde du travail.
Alors, attention, ce n'était pas un droit qui visait à indemniser les citoyens. On n'indemnise pas les citoyens. La question, c'était que, effectivement, le revenu minimum d'insertion avait été rattaché à un droit constitutionnel qui est celui d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Alors, bien entendu, on n'obtient pas des moyens convenables d'existence sans faire un effort, et toute la question a été de savoir comment est-ce qu'on inscrivait l'insertion, c'est-à-dire une manière d'insérer économiquement et ou socialement les personnes dites en difficulté sur le marché du travail de façon primordiale. Le problème était d'une ampleur trop grande pour que quelques mesures d'insertion suffisent à résoudre le problème. Donc, c'était un droit constitutionnel. En tout cas, ça a été rattaché à un droit constitutionnel, surtout dans l'idée qu'il fallait penser le traitement de la pauvreté en revenant au fondement du pacte social. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus du tout un droit constitutionnel. Aujourd'hui, Si vous voulez, on peut analyser ça à divers niveaux. Le RMI est considéré comme une faveur. Une faveur qui est accordée par la société à des gens qui seraient assistés, paresseux, en difficulté ou malades.
C'est ça, et qui, de plus en plus, ont à faire la démonstration ou bien de leur pathologie, ou bien de leur volonté de se réinsérer, de se vendre, pour pouvoir continuer à bénéficier du RMI. On a, vous expliquez que le financement de ces revenus est passé aux régions, aux départements.
Écoutez, le RMI donc était un droit, aujourd'hui il est une faveur, ça veut dire des choses très concrètes. Effectivement, il y a eu la loi de décentralisation de 2003, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a donc décentralisé le RMI, qui auparavant était conjointement géré par l'État et par les départements, en confiant aux départements la charge donc de financer, y compris l'allocation de RMI. Donc c'est quand même un budget qui est assez conséquent. Sauf qu'on ne leur a pas accordé suffisamment de moyens pour pouvoir financer l'allocation. Donc du coup, les départements se retrouvent devant une alternative qui est très simple, ou bien ils durcissent la mise en œuvre du RMI pour, au fond, pour dire les choses très clairement, pour se débarrasser le plus vite possible des RMI, c'est n'avoir pas à payer cette allocation qui leur coûte cher, ou bien ils augmentent les impôts locaux, ce qui est évidemment extrêmement mal vu. Et il faut voir aussi que les départements les plus pénalisés sont ceux qui ont le moins de moyens financiers, ce sont ceux qui ont le plus de RMI, et donc ils sont soumis à une contrainte qui est assez considérable et qui les force d'une certaine manière à augmenter la surveillance, oui, si on peut dire. Mais vous savez, c'est pas simplement le RMI, c'est tout le système de traitement du chômage qui aujourd'hui connaît un virage répressif. Parce que bon, il y a eu la décentralisation du RMI, mais vous savez bien qu'il y a eu les ordonnances Villepin d'août 2004 qui redéfinissent la recherche d'emploi et qui assimilent le chômeur à éventuellement un récidiviste. Le mot récidiviste est un mot qui est emprunté au droit pénal. Donc on est en pleine pénalisation, si vous voulez, du chômage. Donc il y a eu les ordonnances Villepin, vous savez bien, il y a eu surtout la loi Borloo, très importante loi du 17 janvier 2005, qui marchandise en gros le chômage, qui ouvre le marché du placement et permet maintenant à la NPE d'être en concurrence, d'être concurrencée par les entreprises de travail temporaire et les cabinets de recrutement. Et cette loi aussi est extrêmement importante, et pousse, si vous voulez, l'ensemble du traitement du chômage dans un sens qui est effectivement de renforcement des contrôles et de la répression essentiellement.
Et d'un autre côté, vous avez cette expression qui est assez terrible, où vous expliquez que on met en place une clause de non-exclusion totale de façon à maintenir, je vous cite, la contestation de l'ordre public en deçà d'une limite au-delà de laquelle celui-ci risquerait d'être compromis. Donc le bouche à bouche est maintenu pour éviter une révolte.
Oui, alors écoutez, ce qu'il faut voir, c'est que dans le passage de ce que je disais tout à l'heure, du droit à la faveur, on est passé à une nouvelle logique qui consiste à dire que nous ne nous intéressons plus aux causes de la pauvreté et du chômage de masse. Nous considérons que le chômage de masse, la pauvreté, sont des phénomènes naturels et tolérables jusqu'à un certain degré. Et donc, on ne s'occupe plus des causes, on s'occupe seulement des effets. Et si vous voulez, toute l'histoire aujourd'hui, c'est on n'a plus de droit. Le seul droit que l'on ait, c'est de se mettre en règle par rapport à la concurrence. Ça a l'air d'être un discours idéologique, ça ne l'est pas du tout. Je l'ai analysé très en détail dans mon livre. On se met en règle par rapport à la concurrence. Donc, c'est vrai que, si vous voulez, l'État intervient aujourd'hui, il prétend ne pas intervenir ou intervenir le moins possible. En fait, le néolibéralisme, l'État néolibéral aujourd'hui est très différent de ce qu'il était au début du 19e siècle ou à la fin du 18e en Angleterre, par exemple. C'est un État qui intervient, qui réglemente, qui régularise, en fait, et qui entend régulariser, mettre en règle de bout en bout, y compris les individus, pour que chacun se transforme, y compris en petite micro-entreprise, en concurrence l'une avec l'autre. Alors, normalement, si vous voulez, bien sûr, il ne devrait pas intervenir pour soutenir les personnes les plus en difficulté. Mais il y a une clause de non-exclusion, et cette clause de non-exclusion, elle a effectivement pour finalité de faire en sorte que oui, il n'y ait pas des émeutes trop importantes, qu'il n'y ait pas de contestation trop grande. Mais pourquoi ça? Pas parce que les gens souffrent, simplement parce que ça risquerait d'être un grain de sable qui s'introduirait dans les rouages de la machine concurrentielle et qui risquerait de mettre en question le bon fonctionnement de cette machine.
Les idées saines, qu'est-ce que c'est?
Les Français sont paresseux.
Car ils ne savent pas qu'à force de ne pas travailler, ils ne travailleront plus du tout.
Il va être possible de travailler plus pour gagner plus.
Les Français sont paresseux.
Pour en finir avec une spécificité française, le déficit de travail.
35 heures.
Et donc, comme des imbéciles, on se dit, on n'a rien qu'ils ne vont pas travailler. Bon, on va tous au chômage. C'est ça la vérité.
Les Français sont paresseux.
Rendre au travail sa place dans notre société.
Il ne faut pas travailler, il faut gagner beaucoup d'argent. Faut partir en vacances.
Les Français sont paresseux.
Johnny, ça fait 3 ans. 3 ans que Johnny fout rien. Toi, ça fait 2 ans que tu fous rien. Laetitia, ça fait 4 ans qu'elle ne fout rien. Vous faites rien.
On savait pas que le travail, c'était dur à trouver.
Moi, je comprends pas. Franchement, non. Vous êtes déjà pas capable de vous lever le matin pour aller chercher.
Bah, toi, pareil, c'est encore pas les rues.
Bah, si, c'est que quand on cherche, on trouve.
Ça veut dire surtout que quelque chose ne tourne pas rond dans le travail aujourd'hui en France.
Les Français sont paresseux.
Bonjour, paresse.
Rien à craindre, qu'à pas travailler, on va en vacances tout le temps.
Les RTT qui ont créé de mauvaises habitudes.
Pour pas travailler, pour pas travailler.
35 heures.
Mais de là à dire que ce qui est bien, c'est attendre son chèque à la fin du mois sans en ficher une rage.
35
heures. Mais vous n'avez pas encore convaincu la France qu'elle devait se remettre au travail.
Il faut gagner plus si le travail.
Se défoncer pour une grande entreprise, c'est trop con. Tu es sûr de te faire avoir.
Bon, on va tous au chômage, c'est tout. Il faut travailler plus, on travaille plus assez en France.
Les Français sont paresseux. Merci à l'équipe du Monde Diplomatique, merci à Ignacio Ramonet, à Bernard Cassène, à Maurice Lemoine ainsi qu'à Noël Burgi. À lire donc le numéro d'octobre du Monde Diplomatique, à lire aussi le livre de Noël Burgi, La machine à exclure, publié aux éditions La Découverte. Pour les repères des amis, dès là-bas, si j'y suis, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. La liste ainsi que les messages des auditeurs modestes et géniaux de l'émission sont également consultables sur le site là-bas.org. La technique aujourd'hui, Céline Bonhomme et Eric Mainviel. Réalisation Yann Chouquet, assistant Coy Nguyen, assistante Pascal Pascariello et chef répondeur Christophe Imbert.